Les podcasts du Collège de France, Histoire.
Bien, je vous remercie tous. Je remercie, on retrouve nos effectifs à peu près normaux, après deux semaines un peu tourmentées, mais moins tourmentées quand même que mon domaine d'études. Heureusement pour nous. Donc, la dernière fois, j'avais traité de la résolution 242 et de la conférence de presse du général de Gaulle, la célèbre conférence de presse de novembre 1967, donc pour laquelle Jean Lacouture dit que, proposée par un analyste politique, cette interprétation des faits était tout à fait défendable. Mais le chef d'un État impliqué dans la recherche de la paix affaiblissait sa position diplomatique en donnant une version aussi unilatérale de l'affaire. Et en effet, cette conférence de presse avec la fameuse formule du peuple d'élite, sûr de lui-même et dominateur, a fait un énorme scandale et qui a été symbolisé par la publication immédiate dans le journal Le Monde du célèbre dessin de Tim sur le déporté d'Auschwitz crucifié dans les barbelés. Voilà le peuple sûr de lui-même et dominateur. La réaction immédiate du gouvernement israélien a été de qualifier les déclarations du général de Gaulle de déformation de l'histoire et insulte grave au peuple juif et au gouvernement d'Israël. Inversement, Radio Le Caire a salué la position impartiale et modérée de de Gaulle, qui refuse de donner prime à l'agression. Il est alors salué comme le grand contestataire de l'ordre international établi. Je cite. De Gaulle, en effet, empêche de danser en rond tous ceux qui n'ont pas la conscience tranquille, que ce soit au Moyen-Orient, au Vietnam, dans l'Alliance Atlantique ou au sein des institutions financières et monétaires à l'échelle de notre planète. Il empêche les fauteurs de guerre et de troubles, les spéculateurs interlopes, les prétendus amis de la paix, de poursuivre cette insoutenable construction de l'univers qu'ils ont bâti sur le sable depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. François Mitterrand, alors en voyage aux États-Unis, conteste dans la presse américaine que les propos du général de Gaulle soient inspirés par l'antisémitisme. Il montre seulement une profonde ignorance des réalités sociologiques et politiques de l'État d'Israël, dit celui qui est à l'époque considéré comme le chef de l'opposition. Il accuse de Gaulle de manquer de principes moraux dans son approche des problèmes du Moyen-Orient. Les vues de de Gaulle seraient purement matérialistes. Il évaluerait les populations et les ressources comparées des Arabes et des Israéliens et songerait surtout au pétrole de l'Algérie et des autres pays arabes. Comme pour beaucoup de partisans de l'État d'Israël, le tournant de la politique française ne peut s'expliquer que par des intérêts bassement mercantiles. De sa retraite politique, Ben-Gourion a adressé à de Gaulle une longue lettre datée du 6 décembre 1967. Il exprime son trouble devant le contenu de la conférence et reprend tout l'historique de la notion de peuple juif et de sa relation avec sa patrie d'origine. Je cite. « Ce pays ne fut jamais la seule et unique patrie d'autre peuple que le peuple juif. » Fin de citation. Il comprend les deux rives du Jourdain, c'est-à-dire la Palestine mandataire et la Transjordanie. Et dans la suite de sa lettre, Ben-Gourion reprend toute la version mythologique de l'histoire du sionisme. Quand les sionistes sont arrivés, le pays était désertique. Seuls 10% étaient cultivés. Ce sont les Juifs qui l'ont mis en valeur. La nature du conflit oppose le peuple juif aux habitants arabes qui sont là depuis le 7e siècle. Autrement dit, il n'y avait pas d'habitants avant le 7e siècle dans la vision de Ben-Gourion. Le projet du sionisme n'a jamais été de déposséder les Arabes de leurs terres, ni de les transférer ailleurs. Seulement, les Arabes ont pour eux des territoires immenses en dehors de la terre d'Israël. La Palestine, au sens géographique le plus étendu, ne représente que 0,5% des pays habités par les Arabes. Les sionistes ont accepté le partage de 1947 et les Arabes l'ont refusé. C'est la guerre qui a conduit à la libération de nouveaux territoires et au départ des habitants arabes sans qu'il y eut expulsion. Je cite. Aucun de nous n'aurait songé à attaquer nos voisins dans le but de changer nos frontières et d'étendre notre pays. J'ai déclaré à plus d'une reprise, et c'était là notre opinion à tous, que nous sommes prêts à signer un accord de paix pour les 100 années à venir sur base du statu quo. Parmi les membres de notre droite, certains réclamaient la totalité du pays, mais même eux ne proposèrent jamais de faire la guerre pour nous étendre, et ceci en dépit du fait que le monde entier, en tout cas le monde chrétien et tout le monde juif, considérait que les deux rives du Jourdain formaient une seule et même Palestine et espérait qu'elle serait à nouveau la patrie des Juifs promise par la Bible et les prophètes. Et Ben-Gourion continue en disant « Je sais que pendant des centaines d'années, le monde chrétien était convaincu que le peuple juif avait cessé d'exister il y a 2000 ans, et je sais aussi qu'il y a des Juifs qui pensent de la même manière. Nous avons pitié de ces Juifs, mais nous ne sommes pas fâchés contre eux. Ils veulent cesser d'être Juifs, c'est leur affaire personnelle. » Mais ils ne parlent pas en notre nom, tout comme ce n'était pas Pétain qui parlait au nom de la France, mais bien Charles de Gaulle qui était à l'époque isolé et solitaire. Et Ben-Gourion conclut en disant que loin d'être dominateur et conquérant, le peuple juif n'aspire qu'à la paix avec ses voisins. Alors dans ce texte, Ben-Gourion n'a abordé que la période où il a été au pouvoir et n'a pas parlé de la situation présente de 1967. Alors, de Gaulle lui répond par une lettre plus courte, datée du 30 décembre 1967. Elle commence par un rappel de l'estime que le général porte à Ben-Gourion et à son peuple. Je cite « Je sais ce que la restauration d'Israël en Palestine, telle que vous la décrivez après y avoir imminemment participé, a comporté de foi, d'audace et de difficultés, et combien a été méritoire la mise en valeur de régions semi-désertiques par le nouvel État grâce à l'afflux de tant de Juifs venus de partout et à l'aide de tant de leurs communautés réparties à travers le monde. Vous rappelez à juste titre que mon pays et moi-même n'avons pas depuis l'origine ménagé notre sympathie à cette construction nationale et vous ne pouvez douter que, le cas échéant, nous nous serions opposés à ce qu'elle fût anéantie comme le garantissaient nos entretiens officiels de naguère et le fait que j'y avais publiquement qualifié Israël d'État ami et allié. » Et de Gaulle continue en disant que c'est ces conditions mêmes qui imposent à Israël une stricte modération dans ses rapports avec ses voisins et dans ses ambitions territoriales. Je cite « Cela d'autant plus que les terres initialement reconnues à votre État par les puissances sont considérées par les Arabes comme leurs biens, que ceux-ci, au milieu desquels s'installait Israël, sont de leur côté fiers et respectables, que la France éprouve à leur égard une amitié ancienne et naturelle, et qu'ils méritent eux aussi de se développer, en dépit de tous les obstacles que leur oppose la nature, les graves et humiliants retards qu'ils ont souvent subis depuis des siècles, du fait de leurs occupants successifs, enfin leur propre dispersion. » Et de Gaulle continue en montrant que la lettre même de Ben-Gourion, qui évoque les deux rives du Jourdain, montre la nécessité de s'en tenir à la modération qui est la base de toute scène politique. Je cite « Je demeure convaincu que, en passant outre aux avertissements donnés en temps voulu à votre gouvernement par celui de la République française, en entamant les hostilités, en prenant par la force des armes possession de Jérusalem et de maintes territoires jordaniens, égyptiens et syriens, en y pratiquant la répression et les expulsions qui sont inévitablement les conséquences d'une occupation, dont tout indique qu'elle tend à l'annexion, en affirmant devant le monde que le règlement du conflit ne peut être réalisé que sur la base des conquêtes acquises et non pas à condition que celles-ci soient évacuées, Israël dépasse les bornes de la modération nécessaire. » Texte admirable d'analyse, donc, en cette fin 1967. Et de Gaulle conclut en rappelant d'une part son analyse politique, qui est que contre un retrait, il faut un règlement comprenant la reconnaissance d'Israël par ses voisins, des garanties de sécurité pour des frontières qui pourraient être fixées par arbitrage international, la liberté de navigation sur le golfe d'Aqaba et le canal de Suez, un sort digne pour les réfugiés, et la France est prête à participer sur le terrain à ces garanties. Il revient sur le jugement controversé sur le peuple juif, et pour revenir à l'essence du problème qui est pour lui la primauté du politique sur le mystique. Il ne saurait y avoir rien de désobligeant à souligner le caractère grâce auquel ce peuple fort a pu survivre et rester lui-même après 19 siècles passés dans des conditions inouïes. Mais quoi ? Voici qu'Israël, au lieu de promener partout dans l'univers son exil émouvant et bimillénaire, est devenu bel et bien un État parmi les autres et dont, suivant la loi commune, la vie et la durée dépendent de sa politique. Or, celle-ci, combien de peuples l'ont tour à tour éprouvée, ne vaut qu'à la condition d'être adaptée aux réalités. Donc là, nous avons un De Gaulle politique d'abord et rejetant la mystique politique, qui n'est pas une vision habituelle que l'on peut avoir du personnage. L'échange de correspondance est rendu public au début du mois de janvier 1968. Évidemment, chacun y trouve ce qui l'intéresse. La presse arabe retient surtout la nécessité pour Israël d'évacuer tous les territoires. Certains membres du gouvernement israélien expriment leur irritation pour l'initiative prise par Ben-Gourion, sans consultation des autorités, tout en approuvant la teneur de ses propos. Et le reste est le débat sur la nature du règlement, puisqu'en fait, la position gaullienne ne diffère de la position israélienne que sur la question essentielle des annexions territoriales, puisque les autres exigences israéliennes de liberté de circulation, de traité de paix, de reconnaissance sont dans le programme défini par le général de Gaulle. Alors, cette conférence nous permet de prendre un visage plus large, une vision plus large, en regardant l'attitude des intellectuels français par rapport au conflit israélo-arabe. Alors, cette conférence, en effet, est entrée dans un débat qui était déjà extrêmement vif. Raymond Aron, qui a été professeur au Collège de France, a été particulièrement choqué par la conférence. Sa réponse a été publiée quelques semaines après sous la forme d'un court livre écrit sous le coup de l'émotion, De Gaulle, Israël et les Juifs. Son indignation vient du fait d'appeler le peuple des ghettos sûr de lui et dominateur. Sans accuser le général d'antisémitisme, Aron lui reproche d'autoriser solennellement un nouvel antisémitisme. Je cite « Définir un peuple par deux objectifs, un homme d'État s'abaisse lui-même lorsqu'il recourt à un pareil procédé, celui des stéréotypes nationaux, des préjugés raciaux, celui dont les habitués du café du commerce ne se lassent pas et dont psychologues et psychiatres analysent infatigablement les mécanismes. Le général de Gaulle s'est abaissé parce qu'il voulait porter un coup bas, expliquer l'impérialisme israélien par la nature éternelle, l'instinct dominateur du peuple juif. Selon Aron, les termes utilisés n'appartiennent pas au style du nazisme, mais à la tradition française d'antisémitisme, de Maurras et de Drummond. Il l'explique par la colère de De Gaulle devant un Israël qui a refusé de lui obéir en juin 1967. Ensuite, Aron passe à l'analyse des événements allant de 1956 à 1967 et estime que la principale responsabilité de la guerre revient au camp arabe. Et il a sa vision, lui, réaliste. Israël est une citadelle assiégée qui ne peut se permettre de perdre une guerre. Je cite. La garnison assiégée a mené à bien une sortie victorieuse. Elle a élargi son périmètre de défense. Elle continue et continuera de l'être pour des années, sinon des décennies, en situation de défense. Pardon. Et il aborde ensuite la question de la communauté juive. Elle n'existe pas en tant que telle. Elle n'a pas d'organisation. elle ne peut ni ne doit en avoir. Les Juifs de France sont multiples, ils appartiennent à toutes les nuances de l'opinion et à tous les milieux sociaux. Je veux bien que l'on use du concept de peuple juif, puisque les sionistes s'accordent sur ce point avec le général de Gaulle, mais appliqué aux Juifs, le concept de peuple revêt une signification particulière. Les Juifs de la diaspora ne descendent pas de ceux qui vivaient en Palestine au temps biblique. Ils constituent un quasi-peuple par le fait d'une tradition religieuse et du destin imposé au long des siècles. Et c'est cette question du destin qui hante Raymond Aron. Je cite « Aussi longtemps que je raisonne, je ne trouve aucun motif décisif de reprocher aux Français juifs le détachement radical à l'égard de ses coreligionnaires, puisqu'ils ne croient plus, ou à des Israéliens, puisqu'ils se veulent exclusivement français ou gaullistes ou communistes. À une condition, qu'ils ne poussent pas le souci du confort intellectuel jusqu'à nier l'évidence, aux yeux des autres, il appartient lui aussi à ce peuple d'élite, sûr de lui-même et dominateur. » Avec nos références d'aujourd'hui, on doit noter qu'Aron aborde la question dite de l'essentialisme, c'est-à-dire la définition de peuple en tant qu'essence immuable à un moment historique où, à la suite de la Seconde Guerre mondiale et de la décolonisation, l'usage de la notion de race a été condamné dans les sciences sociales, à défaut de l'être dans l'usage courant. L'UNESCO a particulièrement milité dans ce sens, en particulier le texte célèbre de Claus Lévi-Strauss, publié dans le cadre de l'UNESCO, « Race et histoire », qui était le bréviaire de plusieurs générations. Il n'en reste pas moins qu'il existe des catégories produites par le sens commun, liées à l'altérité perçue des groupes, aussi bien dans le regard extérieur que dans la perception de soi. Et c'est là, c'est toujours le problème que nous avons encore aujourd'hui, avec en particulier la discussion sur les statistiques ethniques que l'on a eues récemment. Dans ses mémoires publiées 15 ans après, Raymond Aron reprend la discussion sur la question de la double allégeance posée dès l'émergence du sionisme. La notion de peuple n'est pas univoquement définie et se prête à des usages divers. S'il existe un peuple juif, il n'existe pas d'autre peuple de même type que lui. Il existe une nation israélienne extrêmement diverse, et les juifs de la diaspora font partie des nations dans lesquelles ils vivent. Dans un régime démocratique, l'allégeance nationale ne revêt pas un caractère totalitaire et ne doit pas en relever. Pour des raisons d'origine géographique, religieuse ou idéologique, un citoyen a le droit d'avoir un intérêt particulier pour tel ou tel autre État. Les catholiques français du XIXe siècle pour la papauté romaine, les communistes pour l'Union soviétique, patrie du socialisme, etc. S'étant rendu en Israël durant l'été 1967, Aron a pu se rendre compte de la complexité de la situation. C'est sa vision réaliste des relations internationales qui l'emporte. Ses articles publiés dans le Figaro durant le reste de l'année 1967 l'indique. La guerre de juin n'a été qu'une péripétie. Les territoires occupés sont bien une richesse, c'est-à-dire un atout maître dans une négociation, mais à condition de vouloir les échanger contre la paix et la reconnaissance. Si on veut les conserver, ils deviendront un embarras. Reconnaître l'État d'Israël, c'est aux yeux des non-arabes admettre un fait. Aux yeux des arabes, c'est accepter une injustice et une défaite. La recherche de la sécurité militaire à tout prix comporte en elle-même contradiction et malédiction. La sécurité de l'un entraîne l'insécurité de l'autre et tous connaîtraient le martyre de Sisyphe. Si le conflit se prolonge, il risque de prendre un jour ou l'autre une dimension nouvelle. Au-dessus des armes classiques, il y a les armes atomiques et les engins balistiques. Au-dessous, les bombes et les mitraillettes des partisans. C'est noté d'ailleurs que dans la plus grande partie des articles d'Aron dans le Figaro, Aron refuse d'utiliser la catégorie du terroriste pour utiliser celle du partisan, ce qui est très intéressant du point de vue de l'analyse intellectuelle. Les Soviétiques ne peuvent contraindre Nasser à capituler et les Américains ne peuvent imposer à Israël des concessions. L'occupation crée une situation de qui perd gagne. Israël ne peut donner aux populations des territoires occupés la citoyenneté, ce serait remettre en cause sa nature de nation hébraïque. La minorité arabe est inassimilable et sera peut-être un jour révoltée. Donc, c'est les articles d'Aaron à l'automne 1967. Raymond Aron et l'école de pensée qu'il a inspirée ont puissamment contribué à refonder la démocratie libérale au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, et ceci face au marxisme. Mais ils ont peu été capables d'interpréter la question de la décolonisation et de l'émergence du tiers-monde, sauf en termes géopolitiques de gains ou de pertes. Les Occidentaux n'ont que des intérêts dans le monde arabe, mais non des sympathies. Claude Lévi-Strauss, aussi professeur au Collège de France, le lui a reproché gentiment dans une lettre qu'avec une très grande honnêteté, Raymond Aron a publiée dans ses mémoires. Le grand anthropologue n'a jamais caché son antipathie que lui inspirait l'islam et le monde arabe, en particulier dans son célèbre livre « Triste tropique », où il y a un passage extrêmement violent contre l'islam. Mais, dit-il, « ma perception de la conjoncture israélienne reste subordonnée à une autre à laquelle je suis encore plus sensibilisé, celle qui se produisit il y a quelques siècles de l'autre côté du monde, quand d'autres persécutés et opprimés vinrent s'établir dans des terres occupées depuis des millénaires par des peuples faibles encore et qu'ils s'empressent d'évincer. Je n'ai pu évidemment pas ressentir comme une blessure fraîche à mon flanc la destruction des peaux rouges et réagir à l'inverse quand des Arabes palestiniens sont en cause. » Ça, c'est la critique radicale de Claude Lévi-Strauss à l'essence même de la question. Alors, dans son texte de 1967, Aron a adressé un petit coup de patte à Simone de Beauvoir et à Jean-Paul Sartre, qualifiés de généreux et emportés, toujours en quête d'une discrimination simple entre des anges et des démons. Fin de citation. On sait combien Sartre, dans sa célèbre préface aux damnés de la Terre de Frantz Fanon, a justifié l'usage de la violence chez le colonisé, qui est que le retournement de l'agression coloniale. Je cite, texte célèbre, « Cette violence irrépressible n'est pas une absurde tempête, ni la résurrection d'instincts sauvages, ni même un effet du ressentiment. C'est l'homme lui-même se recomposant. Cette vérité, nous l'avons su, je crois, et nous l'avons oubliée. Les marques de la violence, nulle douceur ne les effacera. C'est la violence qui peut seule les détruire, et le colonisé se guérit de la névrose coloniale en chassant le colon par les armes. Quand sa rage éclate, il retrouve sa transparence perdue, il se connaît dans la mesure même où il se fait. De loin, nous tenons sa guerre comme le triomphe de la barbarie, mais elle procède par elle-même à l'émancipation progressive du combattant. Elle liquide en lui et hors de lui progressivement les ténèbres coloniales. Dès qu'elle commence, elle est sans merci. Il faut rester terrifié ou devenir terrible. Cela veut dire s'abandonner aux dissociations d'une vie truquée ou conquérir l'unité fatale. » Texte célèbre de Jean-Paul Sartre, qui avait fait grand bruit à l'époque. Mais dès 1947, Sartre a été un partisan avéré de l'État d'Israël, d'où son malaise quand il aborde la question. Quelques mois avant le conflit de juin 1967, il a eu le projet avec Claude Lanzmann de faire un numéro spécial de la revue Les Temps modernes consacré au conflit israélo-arabe. Pour une fois, au lieu de trancher la question, il laisse parler les intéressés sous forme de contributions d'intellectuels de gauche, israéliens ou arabes. Oui, arabes. Dans des lignes qu'il affirme avoir écrites le 27 mai 1967, Sartre affirme qu'il ne peut entériner une guerre d'extermination et condamne d'avance l'agression d'où qu'elle vienne et tout autant la provocation qui rend la guerre inévitable. Il exprime son déchirement. Il a été témoin de l'extermination des Juifs sous l'occupation et a bien vu qu'elle n'aurait pas été possible en France sans la complicité de nombreux Français. Aux Arabes qui disent qu'ils ne sont pas antisémites mais anti-israéliens, elle répond « Peuvent-ils empêcher que ces Israéliens pour nous soient aussi des Juifs ?» Mais en même temps, il reconnaît qu'il y a un certain fondement dans les accusations arabes de collusion entre Israël et l'impérialisme, impérialisme qu'il faut combattre partout, d'où la nécessité de chercher patiemment dans sa complexité et ses contradictions la vérité. D'où paradoxalement un Sartre qui, pour une fois, s'abstient de juger tout de suite et examine le dossier. Alors, dans le numéro des temps modernes, les contributions arabes sont toutes axées sur les légitimités d'Israël, aussi bien du point de vue des droits historiques qu'en raison des torts commis à la population indigène. Le sionisme est un mouvement colonialiste, une création de l'impérialiste, il est militariste et raciste. C'est un cancer qui menace l'ensemble de la région proche-orientale. Les points de vue israéliens sont strictement inverses, comme on peut se l'imaginer. Droits historiques, processus d'émancipation des Juifs, droit des Juifs à se définir en nation dotée d'un territoire, réparation de l'Holocauste, tragédie du conflit avec les Arabes. Le sort des Palestiniens est un effet collatéral de la nécessité de créer l'État d'Israël. Les revendications arabes ont pour conséquence la destruction de l'État, voire le génocide de ses habitants. Alors, ce gros ouvrage n'apporte pas grand-chose aux familiers du dossier, mais la rédaction des temps modernes avait demandé une contribution à l'orientaliste Maxime Rodinson, récemment disparu. La question étant donc de savoir où mettre le texte de Maxime Rodinson, soit dans la partie israélienne, soit dans la partie arabe. Rodinson reconnaissait parfaitement son ascendance juive, mais refusait toute appartenance juive de nature politique. De même, il n'a pas accepté d'être assimilé totalement à la cause arabe. On a donc transigé et mis son grand article « Israël fait colonial » en introduction du numéro, en dehors donc des deux parties symétriques du texte. Ce livre, l'article, très critique, lui a valu une avalanche d'attaques violentes de la part des sionistes, avec l'accusation habituelle de haine de soi, commune à ce genre de circonstances. On en trouve l'écho dans l'appréciation louangeuse que fait Raymond Aron de Rodinson, d'abord en 1967, je cite, « Le meilleur article favorable à la cause arabe avait été écrit par un juif dont je respecte la solitude. Les juifs le renient, les arabes ne l'adoptent pas, et les Français pro-israéliens ou anti-israéliens le regardent avec soupçon, Christ ou Judas. » Dans ses mémoires, Aron affirme qu'il refuse de se joindre à ceux trop nombreux qui accablent de leur injure ou de leur mépris un intellectuel juif tel que M. Rodinson, qui a pris parti contre Israël. Le texte de Maxime Rodinson, donc « Israël fait colonial », outre, avec un point d'interrogation, outre qu'il est devenu le bréviaire de générations de militants progressistes, a été traduit intégralement et publié à plusieurs reprises en arabe. C'est une critique historique du sionisme de l'État d'Israël et une explication raisonnée des réactions arabes, mais en même temps, l'auteur a multiplié les garde-fous, avec aussi quelques coups de patte, en particulier l'un à Sartre, au Sartre des damnés de la terre, je cite, « Je suis anticolonialiste et antiraciste, mais ne puis renoncer pour cela à expliquer le colonialisme et le racisme par des facteurs sociaux et psychologiques des plus répandus et des plus banaux. Aucune nulle ne devrait jurer qu'il est inaccessible. Le fait d'appartenir à un groupe de colonisateurs n'est pas le crime indicible et irrémissible que l'on imagine dans les cafés des boulevards Saint-Germain et Saint-Michel. Qui est innocent, seul le temps passé depuis l'usurpation varie. » Donc, Rodinson, quand il traite de l'impérialisme, du sionisme et des conflits, pense toujours en termes de processus sociologique et non en tant qu'essence historique. Sa conclusion reste toujours d'une très grande actualité, texte très beau que j'apprécie toujours. Je cite « Il est possible que la guerre soit la seule issue à la situation créée par le sionisme. Je laisse à d'autres le soin de s'en réjouir. Mais s'il y a quelque chance de voir un jour une solution pacifique, on n'y arrivera pas en disant aux Arabes qu'ils ont le devoir d'applaudir à leurs conquérants parce que ceux-ci sont européens ou en voie d'européanisation, parce qu'ils sont développés, parce qu'ils sont révolutionnaires ou socialistes, virtuellement. Encore moins parce qu'ils sont tout simplement juifs. Le maximum qu'on peut demander d'eux est qu'ils se résignent à une situation désagréable et qu'en se résignant, ils tirent parti de leur résignation. Obtenir d'un vaincu qu'il se résigne à sa défaite n'est pas facile et on ne facilite pas cette démarche en claironnant combien on a eu raison de le rosser. Il est plus judicieux en général de lui offrir des compensations. Et ceux qui n'ont pas souffert de la bagarre peuvent, et même doivent, je crois, prêcher le pardon des injures. Ils ont peu de titres à l'exiger. Conclusion de texte de Maxime Rodinson. Donc ça vous donne un éclairage sur l'ampleur du débat intellectuel de 1967-68 en France, compte tenu que je ne vous ai donné que les meilleurs auteurs. Et qu'évidemment, il y a des choses beaucoup plus pitoyables que ces textes de grande pensée que je vous ai cités. Nous passons maintenant au chapitre suivant. Solution politique ou révolution palestinienne, il devrait y avoir un point d'interrogation, excusez-moi. Donc, loin d'introduire une clarification, la résolution 242 crée de nouvelles incertitudes qui se fondent sur l'absence de volonté politique des acteurs de clarifier leur véritable position. Incertitude politique, comme le montre bien le discours de Nasser le 23 novembre 1967, c'est-à-dire le lendemain du vote de la résolution 242. Nasser y appelle à la tenue d'un nouveau sommet arabe consacré à l'étude de la résolution. Hassan II propose qu'il se tienne au Maroc. Une réunion préliminaire des ministres des Affaires étrangères au Caire le 9 décembre se tient. La Jordanie soutient activement l'idée du sommet, tandis que la Tunisie et l'Arabie saoudite demandent que l'on attende les résultats de la mission Jaring. La Syrie s'y oppose, marquant que le sommet ne pourrait qu'avaliser une politique d'abandon des droits des Palestiniens. La réunion qui se tient du 9 au 11 décembre propose bien la tenue d'un sommet à Rabat le 17 janvier, mais avec un ordre du jour tellement vague qu'on n'en arrive à rien. Et on voit l'Arabie saoudite multiplier les réticences, tandis que la presse saoudienne applaudit les actions des Fedayin palestiniens. En fait, Faisal ne veut pas d'un sommet qui confirmerait la position prédominante de Nasser et qui traiterait aussi de la question du Yémen, où après le départ des troupes égyptiennes, de façon inattendue, les républicains résistent avec une aide modérée venue de l'Union soviétique. Enfin, Faisal craint de nouvelles demandes d'argent des pays de la confrontation. Il estime qu'il paye suffisamment, donc il ne veut pas de sommet. Et donc la diplomatie égyptienne prend acte et le 8 janvier, Nasser renonce à la demande de sommet arabe. Et en dépit d'appels réguliers venus de la Jordanie, il n'est pas possible de tenir un sommet arabe qui serait chargé d'expliciter les positions arabes par rapport à la résolution 242. La Transjordanie sert depuis le début de base arrière aux activités de la résistance armée. Cette résistance bénéficie de l'attitude complaisante des militaires jordaniens en dépit des instructions contraires données par le gouvernement. Dès l'octobre 1967, les organisations combattantes se sont implantés dans les camps de réfugiés. Les 20 et 21 novembre 1967, donc au moment où on discute au Conseil de sécurité la phase finale de la résolution, l'armée israélienne a lancé sa première opération d'envergure contre le camp de Karamé, dans la vallée du Jourdain, faisant plusieurs victimes chez ses habitants. Ce camp proche du Jourdain avait perdu une grande partie de sa population en juin 1967, et l'UNRWA y avait installé par milliers des personnes déplacées, donc venant de Cisjordanie, pour qu'ils puissent quitter les tentes au moment où on abordait la saison froide, qui en Jordanie peut être particulièrement froide, contrairement à ce que je veux dire. Il peut neiger et faire très froid en Jordanie. L'attaque s'est heurtée à une forte résistance de l'armée jordanienne et les Israéliens ont perdu un avion Mystère 4 dans les combats. Le pilote a, semble-t-il, été tué par les habitants d'un village arabe avant l'arrivée des soldats jordaniens. La justification donnée en Israël est de faire comprendre aux Jordaniens que la protection accordée aux saboteurs est trop coûteuse pour être prolongée. Le calme relatif dure environ un mois, puisque la tension reprend à la suite de nouvelles incursions de Fedayin à partir de la Jordanie. En janvier 1968, les incidents deviennent de plus en plus violents sur la ligne du Jourdain, avec des échanges de tirs entre Israéliens et Jordaniens. Si la répression israélienne a réussi à démanteler les mouvements armés en Cisjordanie, il n'en est pas de même dans la bande de Gaza, où les attentats contre les forces d'occupation deviennent de plus en plus fréquents. Alors le problème pour la monarchie jordanienne est d'essayer de limiter, voire de supprimer l'action des organisations de résistance, tout en évitant une insurrection de la population qui est très majoritairement favorable à la résistance palestinienne. Alors, dans ce but, la monarchie a demandé une coopération sécuritaire avec les États-Unis, qui concernerait l'armée américaine et la CIA. Mais en même temps, Hussein a menacé de se tourner vers l'Union soviétique si les États-Unis ne fournissent pas une aide civile et militaire conséquente. Donc Gunnar Jarring, qui est ambassadeur de Suède à Moscou et qui va cumuler les deux fonctions, a pris ses fonctions dès le mois de décembre. Le 10 décembre, il a établi à Chypre le quartier général de la MONUMO, mission de l'Organisation des Nations Unies au Moyen-Orient, puis entame sa première tournée régionale le 12 décembre. C'est une prise de contact qui lui permet d'avoir une connaissance en détail des positions des gouvernements égyptiens, jordaniens, libanais et israéliens. Ensuite, dans sa seconde tournée, il retransmet aux uns et aux autres ce qu'on lui a dit dans la capitale précédente. Il réussit à obtenir la libération de 5000 prisonniers égyptiens par les Israéliens contre 19 prisonniers israéliens. Les autorités israéliennes ont aussi demandé la libération de 6 espions, entre guillemets, c'est-à-dire 4 condamnés pour l'affaire de 1954, l'affaire Lavon, et 2 pour les affaires des années 1960. Les Égyptiens ont refusé, pour des raisons juridiques, ne pas assimiler les espions à des militaires, les prisonniers n'ayant pas la nationalité israélienne, et les Israéliens n'ont pas insisté, la coalition travailliste au pouvoir n'ayant aucune envie de rappeler à l'opinion l'affaire Lavon, qui est un mauvais souvenir, des années 1950. Et les Égyptiens ont laissé entendre qu'à une date indéterminée, ils expulseraient les personnes en question. Donc les prisonniers israéliens avaient 10, excusez-moi, pas 19, 10, excusez-moi, avaient reçu un traitement de luxe, chambre individuelle avec tout le confort moderne et communication postale illimitée. Évidemment, les 5000 prisonniers égyptiens, qui étaient plus nombreux, ont eu un traitement nettement plus sévère. Pour l'essentiel des paysans, ils se sont d'ailleurs mutinés au mois de novembre contre leurs officiers à eux et leurs gardes. On a échappé de peu à un bain de sang, il n'y a eu juste qu'un mort et plusieurs blessés. Second dossier pour Gunnar Jarring, la question des navires bloqués dans le canal de Suez, ou plus explicitement dans le secteur des deux lacs qui suivent le canal. Et là, les engagements sont plus vagues. Parce que cette question des navires prisonniers dans le canal de Suez pose la question de la souveraineté sur le canal entre Israéliens et Égyptiens. Toutes les parties, sauf les Syriens qui ont refusé de recevoir Jaring, évoquent la paix, mais sur des conditions totalement inconciliables pour les uns et pour les autres. Alors, l'embargo français sur les livraisons d'armes frappe essentiellement, je l'ai dit la dernière fois, les avions Mirage, parce que le reste de l'équipement militaire français continue discrètement d'être fourni à Israël sous le nom officiel de pièces détachées. Mais avec quoi on peut construire des tas de matériel, des canons, des tanks et autres avec les pièces détachées que les Français fournissent à Israël durant cette période. Alors, les Israéliens ont rejeté avec dédain les propositions britanniques de leur vendre des Hunters et veulent obtenir des Américains la livraison de Phantoms F4 en plus des Skyhawks déjà commandés et livrables en 1968. L'administration Johnson est réticente à s'engager dans cette voie parce que, d'abord, ça ferait des États-Unis le principal, voire unique, fournisseur d'armes à Israël, et d'autre part, parce que l'entrée en vigueur des Phantoms serait un changement qualitatif considérable dans l'armement présent au Moyen-Orient, puisque le Phantom est un avion de nouvelle génération à la puissance de feu et de pénétration beaucoup plus importante que les avions précédemment utilisés dans cette région. Alors, on recommence le circuit ou le cirque habituel que vous avez déjà entendu un certain nombre de fois. On explore la possibilité de conditionner les livraisons à des progrès dans la négociation politique, mais on y renonce rapidement. On envisage aussi de reposer la question du nucléaire israélien, et puis on y renonce aussi. Pour l'instant, en tout cas. Avec l'aggravation continue de la guerre au Vietnam, l'administration démocrate ne peut pas se permettre d'ouvrir un nouveau débat controversé devant l'opinion publique et le Congrès. Au contraire, Johnson se met à espérer qu'une attitude généreuse envers Israël lui permettrait d'obtenir le soutien de la communauté juive américaine dans la poursuite de la guerre du Vietnam, parce qu'une bonne partie, enfin, une part notable des activistes contre la guerre du Vietnam, recrute justement dans les communautés juives. D'où d'ailleurs l'accusation que les partisans de la guerre du Vietnam font à ceux-là. Ils sont prêts à faire la guerre au Moyen-Orient, mais pas au Vietnam, qui est l'accusation qui est faite sur ces gens qu'on appelle les libéraux à l'époque. À la fin de 1967, il est déjà acquis que l'embargo américain sera levé en 68. Et les 48 Skyhawks déjà commandés seront livrés à la date prévue. Donc, la question porte sur les demandes israéliennes supplémentaires de 27 Skyhawks à 4 HS et surtout des 50 Phantoms F4 à livrer à partir de 1969. Les Israéliens insistent sur le poids croissant de la présence soviétique dans la région et acceptent le principe de la reprise de livraison d'armes américaines à la Jordanie si eux, ils reçoivent les Phantoms. Le 7 et 8 janvier 1968, Johnson reçoit Eshkol dans son ranch au Texas. Le premier ministre insiste sur la menace croissante provoquée par le réarmement des Arabes par l'Union soviétique. La livraison des Phantoms est vitale pour la sécurité d'Israël. Johnson lui répond que la sécurité d'Israël repose avant tout sur une formule permettant la cohabitation pacifique entre Arabes et Israéliens. Dean Rusk marque qu'une cour aux armements ne pourra profiter qu'aux Soviétiques, qui pourront se poser en seul ami des Arabes. La question territoriale est donc fondamentale, d'autant plus que les Soviétiques en font l'enjeu essentiel à l'ONU. Eshkol est sur la défensive, Israël ne retournera pas à la carte du 4 juin 67 et la discussion se continue au niveau des politiques et au niveau des experts militaires. Les Américains tentent toujours d'aborder une perspective de règlement politique, mais les Israéliens obstinément reviennent à la question des fantômes. Johnson multiplie les assurances en faveur de la sécurité d'Israël. Il ne prendra pas aujourd'hui la décision de livrer les F-4, mais accepte le principe d'un programme de formation de pilotes israéliens à ce type d'avion, de telle sorte qu'il soit prêt pour janvier 70, date minimum pour la livraison éventuelle des premiers exemplaires. En revanche, la livraison des 27 Skyhawks supplémentaires pour 1969 est acquise. Le rythme dépendant des capacités de production. En dépit des demandes réitérées d'Eshkol, il n'est pas possible de modifier la date du 1er janvier 70 pour la livraison éventuelle des Phantoms, puisque les lignes de production à observer et les besoins de l'armée américaine au Vietnam. Le communiqué officiel du 8 janvier traduit ses engagements en langue diplomatique. Je cite, « Le président et le premier ministre ont réaffirmé leur souci d'établir une paix juste et durable au Proche-Orient en conformité avec l'esprit de la résolution du Conseil de sécurité en date du 22 novembre 1967. » Ça ne change rien aujourd'hui. Le président et le premier ministre ont examiné les incidences du rythme du réarmement au Proche-Orient ainsi que les voies et moyens de contrôler cette situation. Le président a accepté de continuer à suivre attentivement et avec sympathie la capacité israélienne de défense militaire à la lumière de tous les facteurs permanents, notamment l'envoi par d'autres nations d'équipements militaires dans cette région. Ça, c'est la langue de bois diplomatique, tout à fait caractéristique. Au Caire, on avait espéré un infléchissement de la position américaine. Le communiqué est interprété comme un alignement total de Washington sur la politique israélienne. Tandis qu'en Israël, les préoccupations de sécurité sont réelles, puisqu'on fait passer le 10 janvier le service militaire de 30 à 36 mois. Donc la guerre n'a rien réglé. Les Américains adjurent les Soviétiques de ne pas alimenter la course aux armements. La réponse soviétique est que tout repose sur l'évacuation des territoires occupés et que les deux grandes puissances doivent agir dans ce sens. On ne doit pas traiter les symptômes, on doit traiter les causes de la maladie. La position américaine est devenue totalement réactive. En raison de l'ampleur prise par la guerre de Vietnam, il n'est pas question de pouvoir s'engager dans une entreprise destinée à assurer la paix au Proche-Orient. On se réfugie derrière la mission Jaring et on fournit une aide civile et militaire à Israël et dans une moindre mesure à la Jordanie. Il s'agit d'un dernier cas, non de donner aux Jordaniens les moyens de se battre contre Israël, mais d'assurer la survie de la monarchie en lui donnant les moyens de conserver la fidélité de son armée. Une action conjointe avec l'Union soviétique est impensable. Elle consacrerait sa présence dans cette région du monde considérée comme vitale. Yitzhak Rabin a terminé à la fin de 1967 son temps comme chef d'état-major de l'armée israélienne. Il a par là même, selon la règle imposée par Moshe Dayan jadis, terminé sa carrière militaire, puisque c'est la loi des 40 ans qui fait qu'ensuite on met les militaires à la retraite pour qu'ils fassent une seconde carrière. Haïm Barlev a été désigné pour lui succéder, et non pas d'ailleurs Ezer Weissman qui en a été profondément vexé. Selon ses mémoires, Rabin aurait, dès avant la guerre, demandé à Eshkol qu'il soit désigné qu'ambassadeur à Washington, convaincu qu'il est que les relations avec les États-Unis étaient d'importance primordiale, en particulier dans le domaine militaire. Abba Eban, à qui il s'était régulièrement opposé, sur la définition de la politique israélienne y est plutôt hostile, mais le général obtient le soutien de la vieille garde socialiste, en particulier de Golda Meir et de Yigal Alon. À la fin de l'été, Eban a cédé, considérant qu'en dépit de l'inexpérience diplomatique, le prestige du général victorieux serait un atout considérable dans la fonction. De fait, comme Abba Eban, il peut être considéré comme un annexionniste modéré, plus intéressé par les questions de sécurité que par la valeur, enfin, la référence religieuse, l'affect religieux des territoires occupés. Il a déclaré en privé que la supériorité militaire comptait plus que la conservation de la totalité des conquêtes et que la création de colonies de peuplement en Cisjordanie n'apporterait rien à la sécurité de l'État d'Israël. La base de la sécurité d'Israël, dit-il, ne peut être assurée qu'en faisant de l'État hébreu un partenaire essentiel de la politique américaine au Moyen-Orient, d'où sa demande de partir pour Washington. Il obtient son agrément des autorités américaines à la mi-janvier 68 et arrive à Washington à la fin février. Il retarde ainsi son entrée dans la vie politique à un moment où les trois formations socialistes, le Mapai, le Rafi et l'Ahdut Avoda, fusionnent pour former le Parti travailliste israélien. Golda Meir devient le secrétaire général du nouveau parti, donc ce vers janvier-février 1968. Mais dans les esprits, les identités politiques précédentes demeurent, en particulier le clivage entre les anciens ben-gourionistes du Rafi, c'est-à-dire Moshe Dayan, Shimon Peres, la vieille garde du Mapai, Golda Meir, Eshkol, et l'Ardout, et les anciens de l'Ardout Avoda, c'est-à-dire Yigal Alon. Le nouvel ambassadeur a bien compris que la principale préoccupation de Washington n'est pas l'établissement de la paix, mais les progrès de la présence soviétique dans les pays arabes. L'Égypte, la Syrie et l'Irak sont devenus des alliés privilégiés de Moscou qui soutient directement les républicains yéménites, tandis que les Britanniques, à la suite de la dévaluation d'Alif Sterling, viennent d'annoncer leur retrait de leur position à l'est de Suez pour 1971, c'est-à-dire que les Britanniques évacuent définitivement le Golfe pour 1971. Dès sa prise de fonction, Rabin insiste sur la menace soviétique. Moscou ne veut ni d'un règlement, ni d'une reprise de la guerre. Son intérêt est de profiter de la situation présente pour accroître son influence. Il faut qu'Israël et les États-Unis coordonnent étroitement leurs actions. Il faut forcer les Arabes à négocier et tout sera possible. Pour cela, il faut assurer la supériorité militaire israélienne, d'où la nécessité d'accélérer les livraisons des avions demandés par Eshkol. En avril, il déclare à l'ambassadeur de France que c'est l'Union soviétique qui entretient la tension au Moyen-Orient en livrant 5 fois plus de matériel de guerre aux Arabes qu'ils ne l'ont fait au Vietnam du Nord. Il leur a ainsi fourni des avions de combat, ce qui ne s'est pas vu au Vietnam. C'est au Moyen-Orient que se situe le véritable conflit contre l'Union soviétique. Les relations entre Rabin et les diplomates américains sont loin d'être bonnes, en raison de son ton tranchant qui passe pour de l'arrogance. En revanche, son prestige est très grand auprès des militaires américains englués dans la guerre du Vietnam. Leur interlocuteur était l'artisan d'une victoire totale remportée en 6 jours, ce qui évidemment change par rapport à la situation vietnamienne. Quant au général israélien, il va être atterré par les convulsions américaines de l'année 1968, assassinat de Martin Luther King, de Robert Kennedy, émeute raciale, manifestation imposante du mouvement anti-guerre. Pour lui, les Américains ont perdu leur détermination morale. Bien que se proclamant part du monde occidental, en fait, Israël échappe largement à l'esprit de 1968, si l'on peut dire. Donc nous abordons maintenant la suite de la mission Göring. À la claque, vous avez une caricature de l'époque représentant Gunnar Göring, qui n'a pas l'air très heureux. Mais il faut dire que c'était probablement un travail impossible que la mission qui lui a été confiée. Alors, Göring a conclu de ses premières tournées, navette, que la question des frontières était l'élément essentiel du règlement. Selon les confidences du temps, le secrétaire général de l'ONU et l'ambassadeur de France à l'ONU, toujours, je cite, « Le Sinaï ne suscite pas d'ambition de la part des Israéliens. Pour Gaza, le secrétaire général a suggéré à son envoyé spécial que cette bande de territoire soit placée sous l'autorité des Nations Unies jusqu'à ce que puisse être élaborée une solution définitive. En ce qui concerne la Cisjordanie, des rectifications de frontières pour le moins paraissent inévitables. Les auteurs syriennes devront le faire l'objet de mesures de démilitarisation mais ne poseront pas de réels problèmes. La question véritablement difficile reste celle de Jérusalem et M. Tan pense qu'une forte pression devra être exercée sur le gouvernement israélien pour l'amener à se montrer raisonnable. » Alors du côté égyptien, Nasser se montre hostile à une démilitarisation totale de Sinaï et n'accepte le principe que d'une démilitarisation partielle sur base d'égalité territoriale avec les Israéliens. En ce qui concerne Gaza, Nasser admet, au moins provisoirement, la solution d'une administration qui ne soit ni égyptienne ni israélienne. Alors, Göring reprend sa mission dans la dernière décade de janvier 68, dans un climat troublé par les menaces de représailles israéliennes en Jordanie à la suite d'actions de Fedayin, en particulier dans la région d'Eilat. De fait, de nouveaux incidents violents opposent les deux armées, faisant des victimes des deux côtés. L'opinion publique israélienne est aussi marquée par le naufrage accidentel le 27 janvier d'un sous-marin, le Dakar, avec 69 hommes à bord, donc 69 disparus. Ultérieurement, l'Égypte revendiquera la destruction du sous-marin, mais c'est une galéjade, hein. C'est réellement un accident. Un sous-marin français avait connu le même sort à peu près durant la même période, si mes souvenirs sont bons. L'entreprise de déblocage des 15 navires pris dans le canal de Suez, 14 sont dans le lac Amer et 1 dans le lac Timsar, se conclut par un échange de tirs entre les deux armées. Les Israéliens refusent toute remise en état du canal qui ne passerait pas par une négociation préalable aboutissant à la reconnaissance de leur droit à utiliser la voie d'eau, ce qui est évidemment le problème. Ils s'opposent donc par la force à tout mouvement de navires égyptiens destiné à inspecter les voies d'évacuation. L'Égypte reporte sine die toute nouvelle entreprise de désengagement. L'intransigeance des deux parties s'explique par le caractère politique pris par une affaire qui était théoriquement de nature purement technique. Comme il est de règle dans ce conflit, l'espoir d'établir des relations de confiance et un climat favorable aux négociations par des mesures considérées comme apolitiques se heurte à la difficile réalité que rien ne peut être défini comme apolitique puisque tout peut être posé comme produisant des droits. Si on cumule les incidents sur le canal, sur les lignes de cessez-le-feu avec la Jordanie, les actions des Fedayin, les violences sont maintenant presque quotidiennes durant le mois de février 1968 avec mort d'homme. Seule la Jordanie a accepté publiquement la totalité de la résolution 242. Les Les Arabes ont bien noté que le communiqué israélo-américain du 8 janvier ne parlait que de l'esprit de la résolution 242, donc ils vont en exiger la lettre. C'est considéré comme un grand progrès quand Abba Eman a dit qu'à Jaring, le 1er février, je peux affirmer que nous sommes prêts à chercher un accord pour établir la paix par une négociation comprenant toutes les questions comprises dans la résolution 242 que chaque partie pourrait vouloir évoquer. Ce qui ne veut pas tout de dire qu'Israël accepte la résolution 242, elle accepte de traiter des questions couvertes par la 242. Nuance sémantique importante. Les deux questions de forme, négociation directe et traité de paix au lieu de fin de l'état de belligérance, dominent les discussions. Eban montre une certaine souplesse en invoquant la possibilité d'avoir recours à ce qu'on appelle la formule de Rhodes, allusion à l'armistice égypto-israélien de 1949. Discussion séparée entre chaque partie et Jaring dans une même ville, suivie une fois le dossier bien avancé de discussions tripartites. Je vous rappelle qu'à Rhodes, Ralph Bunche avait mis les délégations arabes à un étage et les délégations israéliennes à un autre étage, et qu'il était censé faire le passage dans l'escalier de l'étage à l'autre, en sachant pertinemment que les gens ensuite se rencontraient dans la salle à manger. C'est ce qu'on appelle la formule de Rhodes. C'était un mélange d'officiers d'in et de off, comme on dit aujourd'hui, qui n'est malheureusement pas reproductible en 1968. Donc, ce qu'on appelle donc la formule de Rhodes. L'Égypte s'en tient à la 242 et exige d'abord que Israël reconnaisse vouloir appliquer la totalité de la résolution 242. Et l'Égypte menace de mettre fin à la mission de Jaring et de se retourner vers le Conseil de sécurité si les Israéliens n'acceptent pas la 242. Alors ça, c'est exactement ce que les Américains ne veulent pas, parce que pour les États-Unis, la mission Jaring, ce serait merveilleux si elle arrive à trouver une paix, mais si elle n'arrive pas à trouver une paix, au moins, ça occupe le temps dans l'intervalle. Donc, il n'est pas question de renoncer, de mettre fin à la mission Jaring. Les Israéliens sont aussi conscients que la situation diplomatique est en train de changer et que leur image dans l'opinion publique internationale est en train de se dégrader. Ainsi, l'Organisation de l'Union de l'Unité africaine, dans sa réunion à Addis Abeba, le 29 février 68, a adopté une motion demandant le retrait inconditionnel des troupes israéliennes. Alors que les relations de coopération économique et culturelle et militaire avec les États africains étaient un des grands axes de la politique israélienne des années 60. Les Américains eux-mêmes sont tout à fait inquiets, puisque tout ce qu'il leur reste de postes diplomatiques au Moyen-Orient rapporte l'ancrage d'un solide anti-américanisme dans les opinions publiques. Donc il vaut mieux pas prendre parti en faveur d'Israël, parce que déjà, enfin publiquement en tout cas, parce que le dégât serait encore plus considérable. Au gouvernement israélien, Menachem Begin, qui est ministre sans portefeuille, mais non sans influence, profite de sa culture juridique pour s'opposer à l'acceptation et l'application de la résolution 242. D'où toutes les ruses de vocabulaire de Abba Eman tournant autour de la volonté de son pays de négocier sur toutes les questions incluses dans la 242. Déclaration officielle d'Abba Eman et de son représentant à l'ONU. Pour les diplomates israéliens, cela équivaut à une acceptation de la résolution, tandis que pour le gouvernement israélien, ça ne signifie pas s'engager à l'appliquer. Merveille de la langue politique. Je vous fais une pause de 5 minutes, comme il se doit.
Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.college-de-france.fr.